VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du lundi 18 juillet 2016, en direct de Washington, D.C., la capitale des États-Unis. Eric Manelakidza et Anne Albertson en votre compagnie. À la une.
L'Union africaine appelle au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud.
À Lubumbashi, en RDC, condamnation de deux opposants à 15 ans de prison.
Au Tchad, le gouvernement peine à payer les salaires des fonctionnaires et provoque la grogne sociale.
Meurtre de trois policiers hier à Baton Rouge, en Louisiane, où le climat était tendu depuis la mort d'un jeune noir début juillet.
Ouverture aujourd'hui de la convention du Parti républicain qui doit investir Donald Trump comme candidat à la Maison-Blanche. Nous retrouverons à Cleveland, dans l'Ohio, nos envoyés spéciaux Nicolas Pineau et Idrissa Seydoudia.
Et ne manquez pas la Minute Éco et des sports, mais d'abord le journal.
La 27e session ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est ouverte hier dans la capitale rwandaise. 31 chefs d'État se sont déplacés à Kigali à l'occasion. Le sommet a appelé au déploiement d'une force régionale de protection au Soudan du Sud et à l'ouverture d'une enquête sur la flambée de violence de ces derniers jours. Des détails avec Maurice Magoran.
Cette cérémonie d'ouverture a été marquée par l'allocution de bienvenue du président du Rwanda, Paul Kagame, qui a souligné que l'Union africaine doit s'autofinancer.
Nous devons être ceux qui paient pour les projets qui concernent nos populations. Nous sommes capables de le faire et nous avons prouvé que cela est possible. Et je vous demande que l'on puisse aller de l'avant sans attendre.
Dès l'ouverture, les chefs d'État se sont penchés sur les sujets chauds comme le Burundi et la situation au sud du Soudan. Le président en exercice de l'Union africaine, le Tchadien Idriss Déby Itno, a demandé au président et vice-président du sud du Soudan de mettre fin à la guerre.
Même si aujourd'hui le calme est revenu à Juba, je tiens, du haut de cette tribune, à rappeler au président Salva Kiir et à son vice-président Riek Machar à leur responsabilité dans cette tragédie qui traverse leur jeune nation.
Aujourd'hui, les chefs d'État se réuniront pour évoquer des sujets comme la succession de la présidence de la Commission de l'Union africaine et l'éventuelle réintégration du Maroc dans l'organisation. Maurice Mangoran, VOA Afrique, Kigali.
À Kigali, toujours, les discussions se déroulent en l'absence du Burundi, dont la délégation a quitté sans explication, Anne, les réunions préparatoires du sommet. Le Rwanda, pays hôte, entretient des relations très difficiles avec Bujumbura.
À Sao Tomé et Principe, le candidat du parti au pouvoir, Evaristo Carvalho, a remporté dimanche, dès le premier tour, l'élection présidentielle avec 50,1% des voix. Il a battu le président sortant, Manuel Pinto da Costa, a annoncé la commission électorale nationale dans la nuit de dimanche à lundi.
Et en République démocratique du Congo, deux opposants ont été condamnés à 15 ans de prison par un tribunal de Lubumbashi à la suite d'une bagarre pour le contrôle d'un parking de taximoto, Idriss Fall.
Olivier Kabala et Eustache Mutombo ont été condamnés à 15 ans d'emprisonnement par le tribunal de grande instance de Lubumbashi. Maître Alexandre Ngoy, leur avocat commis d'office, a dénoncé un procès hautement politique et a trouvé suspect que ses clients étaient seuls au banc des accusés. Le samedi, une dispute avait opposé les deux hommes à leur ancien camarade de la majorité présidentielle sur la gestion d'un parking de taxi-moto dans le fief de l'opposant Gabriel Kiungu Wa Kumwanza, leader de l'UNAPEC. La dispute s'est transformée en bataille rangée, il y a eu des blessés légers. Ces deux militants de l'UNAFEC ont été donc arrêtés, jugés et condamnés pour tentative de meurtre selon le greffe du tribunal. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, est membre du G7, groupe de 7 partis politiques passés à l'opposition et qui soutient la candidature de Moïse Katumbi. L'opposition accuse M. Joseph Kabila de manœuvrer pour rester au pouvoir à la fin de son mandat en décembre.
Fayez al-Sarraj, le premier ministre désigné du gouvernement d'Union nationale en Libye, a de nouveau appelé hier depuis Tunis tous ses compatriotes à se rallier à son cabinet pour juguler les divisions et la menace djihadiste. Samedi, les membres du dialogue politique libyen avaient notamment discuté de la formation d'une armée unifiée.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ailleurs dans le monde, les États-Unis étaient confrontés hier à une nouvelle fusillade mortelle contre des policiers à bâton rouge en Louisiane. Trois policiers sont morts et trois autres ont été blessés par balles dans des circonstances encore non éclaircies dans la capitale de l'État. Pour comprendre l'atmosphère après cette nouvelle tragédie, Idriss Fall, adjoint à Bâton Rouge, Abdoulaye Sy, d'origine mauritanienne.
Moi, je suis là depuis bientôt une dizaine d'années, mais je peux dire que avant que cet incident malheureux qui a eu lieu, tout se passait très bien. Mais depuis que ce jeune homme qui vendait des CD qui a été abattu par deux policiers blancs devant une boutique a ravivé les tensions de communauté entre la police d'un côté et la communauté noire de l'autre côté. Donc je peux vous dire quand même qu'il y a une peur, tout est aux arrêts, les gens ne sortent plus comme avant, les marches continuent toujours. Sur la route qu'on appelle Airline, il y a toujours des manifestations, de ce qu'on appelle le Black Lives Matter, avec les autres mouvements noirs qui sont là, et avec aussi d'autres citoyens blancs qui manifestent chaque jour. Il y a toujours cette tension qui est là, visible. Donc je crois qu'il y a peut-être aussi un manque de confiance ou peut-être aussi que les gens en ont un peu marre de ce qu'on dit, ces shootings, cette agressivité de la police contre les citoyens.
Abdoulaye Sy à Bâton Rouge en Louisiane. Les circonstances du drame sont encore confuses. Dans une intervention spéciale, le président Barack Obama a souligné que rien ne peut justifier la violence contre les policiers.
Deux attentats à la voiture piégée ont visé aujourd'hui des points de contrôle de l'armée à Mukalla, dans le sud-est du Yémen. Tuant au moins 5 militaires selon un haut gradé de l'armée.
En Syrie, l'armée assiège désormais complètement les quartiers rebelles de la ville d'Alep. Hier, elle a pris le contrôle de la dernière route permettant de les ravitailler, faisant craindre un désastre humanitaire.
En Turquie, plusieurs généraux et magistrats ont été arrêtés après le coup d'État manqué qui a fait au moins 265 morts. Le président Recep Tayyip Erdogan a accusé son ancien allié, le prédicateur Fethullah Gulen, qui vit en exil aux États-Unis, mais ce dernier a rejeté toute implication sur l'atmosphère globale après ces événements. Écoutez le témoignage de Maria Fantapier, qui habite à Istanbul.
L'atmosphère générale est celle d'une normalisation progressive, mais il faut aussi dire que, surtout chez les étrangers, il y a quand même une sensation de fragilité. On ne sait jamais à quel moment, en fait, calme peut être encore une fois rompu. Voilà, la situation politique, elle est encore très, très, très fragile. La majorité des gens préfèrent rester chez eux et ne pas trop se déplacer au sein de la ville. Il y a certainement un effort faire retourner les choses dans la normalité au plus vite. J'étais à l'aéroport d'Istanbul au moment où il y a eu les coups militaires. J'étais dans la zone de contrôle des passeports. C'est à ce moment que j'ai vu des militaires rentrer et forcer la police des frontières dehors de leur bureau. Il y a eu une situation de panique. Juste après une demi-heure ou une heure, la police des frontières était de nouveau à son travail. On a vu qu'il y a une vraie volonté de donner l'impression que tout est rentré dans la normalité.
Maria Fantapier à Istanbul.
La France se figera aujourd'hui pour une minute de silence au troisième jour du deuil national décrété après l'attentat de Nice. L'enquête progressait ce dimanche pour cerner des complices de l'auteur de l'attentat qui a soigneusement planifié son attaque le jour de la fête nationale. Les enquêteurs explorent un SMS évoquant des armes envoyées peu avant la tuerie. 7 personnes sont en garde à vue. Fin de ce journal, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Présidentielle américaine 2016, convention républicaine à Cleveland. Le processus atteint l'étape décisive de la désignation des candidats qui vont représenter les deux partis démocrates et républicains. Dès aujourd'hui, les républicains sont rassemblés dans l'Ohio pour 4 jours. C'est à l'issue de cette convention que 2472 délégués vont nominer Donald Trump pour porter le flambeau du parti avec Mike Pence comme son vice-président. VOA Afrique vous fera vivre cet événement politique sur toute la semaine. Idrissa Seydou Dia et Nicolas Pinon sont sur place. Nous ouvrons avec Nicolas. Bonjour Nico.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
À quelques heures de l'ouverture de la Convention républicaine, les forces de l'ordre craignent des débordements pendant les nombreuses manifestations prévues.
Oui, un seul mot d'ordre, Eric, la sécurité pour les près de 2500 délégués républicains qui vont assister à cette convention à partir de ce lundi. On attend aussi 15 000 journalistes accrédités du monde entier. Au total, ce sont 50 000 personnes qui sont attendues cette semaine sur Cleveland. La ville a reçu une aide fédérale de 50 millions de dollars pour payer les policiers supplémentaires et les équipements pour faire face aux nombreuses manifestations pro et anti-Trump. Mais la grande inquiétude ici, c'est surtout le port d'armes qui est autorisé dans l'État de l'Ohio. Et donc, on observe déjà des personnes armées de fusils d'assaut déambuler dans le centre-ville de Cleveland, ce qui est tout à fait légal. Mais beaucoup redoutent des affrontements. Près de la Quiklone Arena où aura lieu la convention, des barrières de 2,50 m ont été installées ainsi que des blocs de béton. Bref, Eric, le centre-ville de Cleveland s'est transformé en véritable forteresse.
Nico, Donald Trump acceptera la nomination républicaine jeudi le 21 juillet, mais cette convention est boycottée par certains poids lourds du parti, contrairement à l'habitude.
Oui, le candidat républicain qui a largement devancé ses rivaux lors des primaires, mais à quel prix? Par exemple, John Kasich, le gouverneur de l'État de l'Ohio, où se déroule cette convention ici à Cleveland, eh bien, il n'aura pas le droit à la parole. John McCain et Mitt Romney, qui étaient les deux derniers candidats malheureux à la Maison-Blanche pour le GOP, eux, ils ont préféré ne pas venir, tout comme le clan Bush. Conséquence, les 41e et 43e présidents des États-Unis ne seront pas de la partie. A noter cependant que Ted Cruz, qui fut un adversaire coriace lors des primaires républicaines, il prononcera un discours, ce sera mercredi. Donald Trump avait promis que cette 40e convention républicaine ne serait pas comme les autres, mais pour l'heure, Eric, c'est une programmation plutôt classique, même si les organisateurs promettent des surprises. Attendons de voir.
Merci Nico pour toutes ces précisions. Idrissa Seydou Dia est également à Cleveland. Il nous rappelle la signification de la convention ainsi que son histoire.
The convention is a democratic process at work.
Ce délégué de l'Iowa, où a eu lieu la première consultation de cette présidentielle américaine, résume bien la signification de la convention qui a fait déferler sur Cleveland des milliers de délégués, militants et responsables du Parti républicain. Pour ce délégué de l'Iowa que j'ai rencontré ici à Cleveland, la convention, c'est le processus démocratique en action. Il explique qu'il a été élu directement par le parti de son État pour venir appuyer ici son candidat et lutter, je cite, « pour notre homme pendant l'automne » et, s'est-il repris, « dans certains cas, une femme ». Historiquement, les délégués n'étaient pas si puissants. Il a fallu l'établissement des primaires au 19e siècle et surtout au début du 20e siècle pour commencer à leur donner, à ces délégués, le pouvoir effectif de sélection des candidats de leur parti respectif à la présidence. À noter que la Constitution américaine ne dicte pas aux partis combien ils doivent être et encore moins comment ils doivent mener leurs affaires internes. Autrefois, c'était la machine du parti, ou encore les barons du parti, qui choisissaient les candidats à la présidence et à la vice-présidence et faisaient entériner leur choix par les délégués. L'expression que l'on utilisait en anglais pour ce processus était le « smoke-filled room », littéralement « la salle remplie de fumée ». Et je ne suis pas sûr qu'on parlait ici des cigares que l'on fumait, plutôt l'opacité du processus. Les choses ont pris un tournant décisif en 1972, surtout après l'expérience des démocrates en 1968 à Chicago. C'était en pleine guerre du Vietnam. Le président Lyndon Johnson, qui faisait face à une sérieuse opposition au sein de son parti, a décidé de ne pas se représenter. Son vice-président, Hubert Humphrey, qui n'avait participé à aucune primaire, avait été quand même investi pour briguer la présidence au nom du Parti démocrate. La démocratisation consécutive du processus a permis, en 1976, à un parfait inconnu, un certain planteur de cacahuètes de Géorgie et ancien gouverneur de cet État, de s'imposer. On peut dire la même chose avec Barack Obama en 2008. On peut dire aussi que l'homme que les républicains vont introniser dans cette convention a bénéficié largement de la démocratisation du processus de sélection des candidats lors des primaires. D'aucuns pensaient lui barrer la route en faisant changer d'avis un nombre suffisant de délégués ou en faisant appel à leur conscience et les amener à ne pas se sentir liés par les résultats de leurs primaires respectives. Ça n'aura pas lieu à cette convention. Idrissa Sidoudia à Cleveland.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
L'actualité en Afrique et ailleurs, c'est la Minuteco avec John Lyndon.
Au Sénégal, le régulateur des télécoms a infligé une amende de 13,96 milliards de francs CFA à l'opérateur Sonatel pour violation du droit à l'information des consommateurs. La filiale du français Orange envisage un recours contre cette pénalité qui représente 3% de son chiffre d'affaires. On reproche entre autres à la Sonatel de ne pas avoir respecté le principe de gratuité complète des appels vers son service client. L'Angola est dans la tourmente après des années de boom économique. Après la fin de la guerre civile en Angola en 2002, Luanda est devenue une mini-version africaine de Dubaï où l'argent du pétrole coulait à flot et des gratte-ciel sortaient de terre. Aujourd'hui, nombre de bureaux neufs restent vides alors que le pays subit depuis 2 ans la chute des cours de l'or noir. Le Kwanza, la monnaie locale, a baissé de façon vertigineuse et Luanda a été détrôné à la tête du classement des villes les plus chères du monde.
C'était la Minute Éco. Merci John. L'actualité sportive avec Élisée Onkpatine. Football d'abord, les Coupes d'Afrique des clubs au programme ce week-end en Ligue des Champions. Troisième journée dans le groupe A et mauvaise opération pour la SEC d'Abidjan. Élisée.
Sans ressources, les Ivoiriens face à Zesco United battus 3-1 à Ndola. Deuxième succès pour les Zambiens. Dans l'autre rencontre du groupe, match nul et vierge entre le National du Quai et le Wydad de Casablanca. Le résultat au classement, le Wydad est en tête avec 7 points. Zesco suit avec 6 points. 3 points pour la SEC Mimosa classée 3e. 2 points de plus que Al Ahly pont dernier. Et puis dans le groupe B, l'autre club du Quai, le Zamalek, s'est incliné sur sa pelouse 2-1 face à Mamelodi Sundowns. Les Sud-Africains, premiers avec 6 points, ont un pied en demi-finale. Zamalek, deuxième avec 3 points et Eniba ferme la marche avec 0 points. Le club nigérian était au repos suite à la disqualification de l'entente de Sétif par la CAF.
On a disputé également la troisième journée de la phase de poule en Coupe de la Confédération.
Effectivement, le fils de Rabat prend la tête du groupe B suite à son succès 3-1 face au Kab-Kab Marrakech. Le récent champion du Maroc totalise 7 points, soit un de plus que le club de Marrakech. Notons la première victoire de l'étoile du Sahel dans ce groupe 3-0 devant les Libyens d'Ali Tripoli. Le tenant du titre prend la troisième place avec 4 points. Tripoli est bon dernier avec 0 point.
Et dans la poule A, le tout-puissant Mazembe est allé chercher le nul à Béjaïa.
0-0, c'est le score qui a sanctionné cette partie. 10e match sans défaite pour les Corbeaux, toute compétition confondue. Et du coup, dans le groupe A, le club de Lumbashi reste donc en tête avec 7 points de longueur devant le Mo Béjaïa. Mazembe, qui profite ainsi du match nul entre les Tanzanais de Young Africans et les Ghanéens de Mediama, un but partout pour se rapprocher un peu plus des demi-finales.
On passe au tennis. En Coupe Davis, Madagascar et le Maroc joueront bien dans le groupe 2, zone Europe-Afrique.
Oui, les Malgaches qui organisaient le tournoi se sont imposés face à la Namibie et font leur retour dans le groupe 2. Le Bénin, lui, s'incline contre le Maroc dès la fin des deux simples.
Enfin, en athlétisme, on disputait le meeting Hercules à Monaco, comptant pour la Ligue de Diamants.
Et la bonne forme de Caster Semenya, la Sud-Africaine réalise une belle performance sur 800 mètres à moins d'un mois des Jeux Olympiques de Rio. Son temps, 1 minute 55 secondes 33 centièmes, soit 1 seconde et 30 centièmes de mieux que son précédent chrono. Semenya qui bat donc son record national. A noter que dans ce double tour de piste, la deuxième place pour la Burundaise Francine Niasamba.
C'était la page des sports. Merci Élisée. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, Eric Manilakiza avec vous. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Première destination, c'est la première destination, le Bénin. où la population se livre à une expédition punitive contre des supposés braqueurs ou voleurs. Ces derniers payent de leur vie dans les flammes ou sont battus jusqu'à ce que mort s'en suive. Pourquoi les Béninois contournent la procédure légale mais préfèrent plutôt recourir à la vindicte populaire? Les précisions avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Nul n'a le droit de se faire justice, dit la loi, mais une partie de la population béninoise, apparemment, n'en a que fait de ce principe légal. Comme un serpent de mer, la vindicte populaire est revenue au devant de la scène, et ceci de façon bien plus virulente. Les images choquent la sensibilité, mais personne pour siffler la fin de cette pagaille qui consiste à se faire justice sans donner la possibilité aux accusés de se défendre. Même les associations de défense des droits de l'homme se sont enfermées dans un silence assourdissant. Mais récemment, un communiqué du Conseil des ministres s'est penché sur la question et par un communiqué, le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, a clairement signifié que les sanctions seront excessives pour ceux qui s'amuseront à ôter la vie de leurs concitoyens. Au lendemain de cette déclaration, les populations ont crié leur colère face aux propos d'un gouvernement qui tarde à trouver des stratégies pour contrer la violence des braquages, mais apte à protéger ceux qui, selon elles, sont en porte-à-faux avec la loi. Pour beaucoup, la vindicte populaire est une bonne chose et sera toujours d'actualité tant que des mesures ne seront pas prises pour limiter les braquages.
La vindicte populaire, je pense que c'est une bonne chose. Quand ils veulent braquer, ils n'ont pas pitié. Ils sont prêts à tuer.
D'une part, la population a raison, mais de notre côté aussi, elle n'a pas complètement raison. Puisque, après tout, c'est un être humain comme nous. Donc, on n'a pas le droit de leur arracher la vie comme ça, non.
On le laisse en prison, il fait 2 mois, 3 mois, il ressort et il reprend encore la même chose. Donc, selon moi, qui tue par l'épée, périt par l'épée. Donc, ils ont cherché, donc ils ont trouvé.
L'attitude des voleurs ces temps-ci laisse vraiment à désirer parce que en plus de prendre un bien qui ne leur appartient pas, ils tuent celui à qui le bien appartient. Et donc j'estime que si la population se sent vraiment offusquée au point de se faire justice elle-même, c'est parce qu'elle a bien des raisons de le faire puisque notre justice ne répond pas vraiment à ce qu'on attend.
La vindicte populaire, il faut le dire, a tellement pris de l'ampleur que même les enfants pensent que c'est normal.
Pour moi, les gens qui volent, on doit les brûler.
Pour moi, la seule qui vole là, pour leur couper le bras. S'ils volent encore, on coupe l'autre.
Si on attrape des voleurs, il faut les tuer parce que si on les met en prison, on les donne seulement quelques 5 ans et puis ils sortent après et c'est pour tuer des gens après.
De Cotonou, Ginette Fleur-Adandé pour VOA Africa.
Au Mali, les ressortissants de la région de Gao ont mobilisé à Bamako 3 millions de francs CFA pour soutenir les familles des victimes des tueries du 12 juillet dernier à Gao. L'opposition malienne s'est proposée de son côté à organiser une rencontre nationale autour de la crise au nord du Mali. Objectif, permettre une meilleure application de l'accord et faciliter l'implication de tous les Maliens dans ce processus. Les détails avec Kassim Traoré.
Tous les leaders de l'opposition malienne étaient au grand complet pour cette conférence de presse. Ils ont passé en revue les sujets brûlants de la nation, surtout la question de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Il a engagé le pays dans un processus dit de paix et de réconciliation en Algérie sans réunir les forces vives de la nation. Le gouvernement, à travers une immense machine de propagande mise en place à cet effet, a tenté d'accréditer dans l'opinion que cet accord restaurera la paix et la stabilité dans tout le pays. Tous les acteurs qui interviennent dans la résolution de la crise du Mali sont unanimes à constater que l'application de l'accord piétine dangereusement.
Le maire de Gao, non moins président du parti PDS, membre de l'opposition, pour lui, si la marche du 12 juillet l'avait trouvé à Gao, il allait marcher aux côtés des jeunes de sa ville. Sadou Haruna Diallo, maire de Gao.
Quand j'ai dit cela, je prends part à la marche, c'est-à-dire je l'organise, parce que c'est un droit constitutionnel. C'est un peuple qui m'a élu. Je ne suis pas nommé ni par un président, ni par un ministre. Le gouvernement gouverne sur qui? C'est la population, ces gens-là, quand ils les ont abandonnés. C'est cette brave jeunesse qui les a gardés. Donc, on doit prendre les jeunes en compte.
Le maire est revenu sur le bilan de la marche et il a condamné la répression contre les jeunes de sa commune.
il y a 3 morts au lieu de 4. Le premier jour, il y a eu 3 morts. Donc, et un mort était même un paisible commerçant qui était assis à sa porte, qui a reçu une balle. Et les deux autres, c'est les jeunes des mouvements patriotiques de Kandoku. Et il y a eu 35 blessés de balles. Mais actuellement, où je vous parle, il y a 45 blessés parmi la jeunesse. Donc, ça veut dire que les 12 ont été blessés par des coups de torture. Et là, pour moi, un gouvernement responsable ne doit pas faire cela. Je le condamne.
C'est pour venir en aide à ces victimes et blessés que le collectif des ressortissants des régions nord du Mali, Coren, a fait une collecte de fonds. Ousmane Issoufi Maïgadi Pinochet, président d'honneur du Coren.
La rencontre avait pour objet uniquement pour demander à tous les enfants du pays, que ce soit du nord ou du sud, de contribuer afin de pouvoir soigner les malades et d'aider les familles de victimes. Dans la salle science tenante, nous avons pu collecter 3 128 000 plus de promesses qui ont été faites. Et d'ici mercredi, nous allons pouvoir clôturer cette chaîne de solidarité afin de pouvoir envoyer le plus rapidement possible la délégation à Gao pour rencontrer les jeunes et aider à atténuer leur souffrance.
Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Tchad, le président Idriss Déby Itno devra affronter dans sa prochaine législature une grogne sociale au sein des secteurs publics du pays. Les fonctionnaires tchadiens et toutes les couches socioprofessionnelles semblent être déterminées à protester. Réélu pour un cinquième mandat consécutif, M. Déby sera donc investi le 8 août prochain sur fond de tensions sociales. André Kudmajingar est en N'Djamena, son reportage.
Nous sommes en plein milieu du mois de juillet, mais le gouvernement n'est pas à mesure de payer le salaire du mois passé à certains fonctionnaires. Les anciens chercheurs, quant à eux, menacent de rompre le protocole d'accord signé avec le gouvernement si les primes, salaires des contractuels et vacations ne sont pas payés dans un bref délai. Les maîtres communautaires totalisent 25 mois d'arriérés de leur subside et les élèves de l'école normale bilingue de N'Djamena accusent 6 mois d'arriérés de leur bourse d'études. Pour calmer les esprits, le gouvernement est obligé de payer certains fonctionnaires par découvert bancaire. Analyse de l'inspecteur de trésor Mohamed Nour Ibedou.
Tous ces subterfuges bancaires-là sont destinés à masquer les tares d'un régime qui nous conduit droit vers l'abîme. Cette manière de faire, elle fatigue les banques parce que les banques sont commerçantes. Quand l'échéance négociée est passée, il y a également les intérêts moratoires. Le système est fait de telle manière que l'État en soi risque d'être à la merci des banques. Parce que la dette intérieure, une fois, avait été payée par les banques moyennant 12% sur le montant à verser aux commerçants, ce qui est totalement anti-comptable. Donc ce pays risque d'être privatisé à tel point qu'un jour, c'est un individu qui va payer le fonctionnaire par sa poche.
À l'issue de 3 jours d'arrêt de travail sans succès, l'Union des syndicats du Tchad durcit sa position. Elle vient de reconduire son mot d'ordre de grève pour exiger le paiement de salaire du mois de juin aux derniers fonctionnaires. En revanche, les magistrats décident de reprendre le travail ce lundi dans toutes les juridictions du pays après 2 semaines de débrayage pour revendiquer les primes de rendement de 2015. Pendant que la crise sociale sévit, le premier ministre chef du gouvernement a signé un contrat de performance au début de la semaine dernière avec tous les responsables des régies financières. Le chef du gouvernement leur demande de déposer les recettes au trésor public pour permettre à l'État de faire face à cette conjoncture économique alors que cela est une obligation de leur cahier de charges. Réaction de l'inspecteur de trésor Mohamed Nour Ibedou.
Toutes les régies financières sont occupées par soit des parents très proches, soit des beaux-parents. Vous avez le beau-frère qui est TPG. Il pense que cet argent lui appartient et appartient au président et à sa famille. Au trésor, c'est un beau-frère. À la douane, c'est un neveu. Les entreprises sont quasiment la propriété des membres de la famille. Ce sont des intouchables. Donc, ils ne payent pas l'impôt. Le chef de l'État n'a pas d'autre programme que d'appauvrir les autres Tchadiens, enrichir au maximum ses parents, de manière à avoir dans la société une minorité de maîtres et une majorité d'esclaves.
André Kodumadjingar N'Djamena pour VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. voafrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages, photos et vidéos, et vos commentaires sur voafrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Muntou sur VO Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au programme Top 10 American Music, l'actualité de la musique pop américaine. RM Show, c'est aussi l'interactivité en direct sur Facebook Live. Si vous voulez me voir en direct, écouter de la bonne musique et partager vos idées avec le reste du monde, connectez-vous sur notre page Facebook VOA Afrique à 20h temps universel. Nous avoir au téléphone, appelez au 001-202-619-3140, vos SMS et WhatsApp au 001-703-350-3731. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington DC. Eh bien, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction de la VOA, Eric Manilakiza à Washington DC. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.